VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 17h à Niamey. Bienvenue à notre journal. Théodorine Obiang, fils du président de Guinée équatoriale, est accusé de s'être bâti indûment en France un patrimoine considérable, sera jugé à partir du 2 janvier à Paris dans l'affaire des biens mal acquis. Le point avec Nani Talani.
Théodorine Obiang-Nguema n'était ni présent ni représenté à l'audience de ce lundi. Le cabinet de son avocat a refusé le pli qui lui était adressé pour requérir sa présence. Âgé de 47 ans, promu vice-président de la Guinée équatoriale fin juin par son père Théodoro Obiang-Nguema au pouvoir depuis 37 ans, il est poursuivi pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Depuis son inculpation en 2014, il a tenté en vain de faire annuler les poursuites en invoquant son statut à l'époque de deuxième vice-président de Guinée équatoriale qui lui octroyait une immunité. La Cour de cassation, la plus haute juridiction française, avait estimé que les faits qui lui sont reprochés relèvent de sa vie privée, donc détachables des fonctions étatiques. Monsieur Obiang a saisi la Cour internationale de justice à La Haye pour demander une suspension des poursuites en France. Un procureur français estime que cette plainte a de très faibles chances d'aboutir.
Au Burundi, 5 organisations de la société civile ont été définitivement radiées. Le ministère de l'Intérieur affirme que ces organisations étaient clandestines et qu'elles ternissaient l'image du pays. Un non-événement pour les organisations concernées qui se disent plus déterminées que jamais à plaider pour la population. De Bujumbura, notre correspondant Christophe Ngrunziza nous en dit plus.
Par une ordonnance ministérielle, le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagué, a signé la semaine dernière la radiation de 5 organisations de la société civile. Ces organisations sont le Forum pour le renforcement de la société civile, Force qu'en sigle, l'Association pour la promotion des droits humains et des prisonniers à ProDH, le Forum pour la conscience et le développement Focodé, l'Association contre la torture ACAT et le RCP, Réseau des Burundais Probre. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui a commenté dimanche cette ordonnance, a indiqué que ces organisations ont continué à travailler dans la clandestinité et noircissent l'image du Burundi. Terence Ndahira Aja a appelé les responsables administratifs et se charger des mesures de sécurité à prendre des mesures adéquates qui s'imposent. Vital Nshimirimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile, pour lui, cette annonce est un non-événement car le gouvernement de facto du Burundi n'a plus les compétences de suspendre ces organisations. Pour Nshimirimana, cette ordonnance démontre une rancune que le gouvernement a envers les associations de la société civile qui ont pris le devant pour dénoncer et rejeter la violation de la Constitution et les accords de paix d'Arusha. Pour le président du FORSC, ils vont continuer à enquêter sur les violations des droits de Burundais et de plaider pour la population. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Centrafrique, la journée ville morte à Bangui a été suivie par la population. Il y a eu des violences, on signale au moins 3 morts et plusieurs blessés. Par contre, au Tchad, la journée ville morte a été peu suivie à N'Djamena, la capitale. Le collectif contre la vie chère avait lancé ce mot d'ordre, mais en dehors des écoles, tout fonctionnait normalement. Au Cameroun, journée de deuil ce lundi en mémoire des victimes du déraillement d'un train qui a fait 79 morts vendredi sur la ligne Douala-Yaoundé, selon le tout dernier bilan communiqué par la Radio Nationale. Les précisions de Timothée Donangmaï.
De retour dimanche d'un voyage à l'étranger, le président camerounais Paul Biya a promis une enquête approfondie pour faire la lumière sur cette tragédie. Il a aussi ordonné la prise en charge des blessés par l'État. Le gouvernement a de son côté lancé un appel aux dons de sang en faveur de quelques 600 blessés. Les services de secours sont à pied d'œuvre sur les lieux de l'accident à la recherche d'autres corps. L'accident a eu lieu près d'Ezeka, à 120 km de Yaoundé, et l'acheminement des corps vers la capitale politique et Douala, la capitale économique, complique les recherches entreprises par les familles. Même chose pour les blessés, l'hôpital des Eka comptant à peine 60 lits. Le train accidenté transportait plus de 1400 personnes, soit plus du double du nombre en temps normal. Des rames additionnelles avaient dû y être rajoutées face à une demande accrue liée en partie au fait que les transports routiers avaient été bloqués par l'effondrement le 21 octobre d'un pont sur la principale route reliant Yaoundé et Douala.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, la police nationale a mis fin aux activités d'un réseau de recruteurs de jeunes pour des actions de terrorisme. Un terroriste présumé a été abattu dans le cadre de cette opération dans la banlieue de Ouagadougou. Le point avec notre correspondant sur place, Zoumana Ronogo.
C'est grâce à la collaboration des habitants du quartier Kilouin que la police a été informée des agissements du réseau de recruteurs de jeunes terroristes. Elle a alors décidé d'agir, explique Lazare Tarpaga, le directeur général de la police.
Nous avons donc essayé de suivre les traces et de pouvoir remonter pour savoir si nous pouvons mettre la main sur ceux qui viennent pour effectuer ces recrutements. Ce qui nous a donc conduit à plusieurs domiciles et nous avons débusqué le lièvre que nous avons poursuivi. Et nous avons essuyé des tirs, nous avons riposté. Nous sommes toujours en train de rechercher au moins 3 autres personnes, aussi bien ici à Ouagadougou qu'au niveau de Bobo Dioulasso.
Pour Maïsa Sérémé, le procureur général du Faso, les effets laissés par les recruteurs vont être d'un apport inestimable dans la poursuite de l'enquête. Maïsa Sérémé, procureur général.
Nous avons un sac qui contient des portables, qui contient différents effets que nous allons exploiter pour essayer de retrouver les ramifications avec les complices qui se trouvent à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Nous allons exploiter les différents coups de fil à travers les téléphones portables qui ont été passés pour essayer de retrouver tous ceux qui sont impliqués dans ce recrutement de nos enfants.
Le ministre de la Sécurité, sans vouloir en dire plus, salue la collaboration des populations. Suivons le ministre Simon Compaoré.
Quelques éléments ont été appréhendés et tout cela, comme on a dit, il faut éviter d'en dire trop. Ce qu'on doit rechercher, toutes les forces de défense et de sécurité sont à leur trousse et la population est en train de collaborer efficacement.
Soumana Bounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique maintenant. En Irak, l'offensive pour la reprise de Mossoul se poursuit, mais la résistance des djihadistes s'accroît au fur et à mesure que les forces irakiennes s'approchent de la deuxième ville du pays. Anastasie Toudjiech.
Les dizaines de milliers d'hommes convergent vers le fief du groupe État islamique. Les combattants kurdes Peshmerga sont déjà à Bashika, à 25 km de Mossoul. Au sud-est, des forces d'élite irakiennes se battent pour reconquérir Karakosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak. Le groupe islamique ne va pas leur rendre la tâche facile. Son attaque surprise vendredi à Kirkouk, à 170 km de Mossoul, a été mise en échec. Selon Najmeddine Karin, gouverneur de la province, 74 djihadistes et 46 membres des forces de sécurité ont été tués. Le groupe djihadiste a mené hier une attaque à Rutba, à l'ouest, où il a exécuté au moins 5 Irakiens. Brett McGurk, émissaire du président américain au sein de la coalition, précise qu'en une semaine, les raids aériens ont permis de détruire 136 positions ennemies, mais se garde bien de faire des pronostics sur la durée des combats.
Présidentielle américaine 2016 maintenant, la candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton, confiante dans ses chances à l'élection du 8 novembre, tente maintenant d'aider les candidats démocrates aux législatives. Pour sa part, le chef du parti républicain, Reince Priebus, bat une nouvelle fois le rappel des troupes en faveur de Donald Trump, le candidat de son parti à la Maison-Blanche. Les détails avec Timothée Donangmaï au micro d'Idrissa Sedoudia.
La démocrate Hillary Clinton peut déployer des efforts en faveur des autres candidats démocrates dans la mesure où elle bénéficie du concours de plusieurs personnalités démocrates, notamment des occupants actuels de la Maison-Blanche. Selon son porte-parole, elle battra campagne cette semaine et pour la première fois avec la première dame Michelle Obama lors d'une visite à Winston-Salem en Caroline du Nord. Le président Obama, lui, se rendra dans le Nevada pour plaider la cause de Mme Clinton, mais aussi appuyer la tentative de son parti de reprendre le contrôle du Sénat. Le leader de la minorité démocrate au Sénat, Harry Reid du Nevada, prend sa retraite après un cinquième mandat et les démocrates entendent tout mettre en œuvre pour conserver son siège.
Alors que les démocrates font front commun dans cette campagne, les républicains ont encore du mal à resserrer les rangs autour de leur candidat Donald Trump.
Tout républicain doit soutenir le candidat nommé par le parti, à savoir Donald Trump, a martelé dimanche le chef du parti républicain, Reince Priebus, preuve de la vive préoccupation du camp républicain. Priebus, qui prédit une victoire de Trump le 8 novembre, a défendu le refus controversé de son candidat de s'engager à accepter les résultats des élections avant de les avoir vus. Donald Trump fait allusion au cas où le vote serait serré et où quelques centaines de voix seulement sépareraient les deux principaux candidats, a assuré le président du parti républicain.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.